Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois ici dans ce studio un écrivain qui est à Nîmois, Alain Artus. Bonjour Alain.
Bonjour monsieur.
Bienvenue ici. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres et vous êtes écrivain, vous êtes poète, je crois. Vous nous raconterez tout cela. Vous êtes connu ici à Nîmes pour avoir écrit la biographie d'un célèbre Nîmois, Marc Bernard, qui a été pris Goncourt en 1942. Et vous avez publié sa biographie déjà en 2013, un livre qui va être prochainement réédité. Et vous êtes venu aujourd'hui particulièrement pour présenter votre dernier ouvrage, publié l'année dernière, qui s'intitule « Léo Larguier en quelques images ». Vous aviez déjà publié un livre à propos et autour de Léo Larguier, un livre qui s'intitulait « Léo Larguier, la volupté du rêve », que vous aviez édité aux éditions de La Fenestrelle il y a quelques années, je crois, cinq ou six ans peut-être.
Oui, oui, oui.
Mais là, vous êtes revenu sur Léo Larguier, que vous ne lâchez plus. Et Léo Larguier en quelques images, donc publié en 2003 aux éditions
La Voix Domitienne.
Et un livre préfacé par Hervé Pijac. Alors, nous sommes très, très heureux donc, de parler avec vous. Vous pourrez peut-être nous dire, avant qu'on aborde directement Léo Larguier, auparavant... Vous avez écrit aussi beaucoup d'articles dans les revues, n'est-ce pas ?
J'en ai fait écrire quelques articles dans une revue associative qui était sur Avignon, donc qui s'appelait La Fontaine de Pétrarque. Donc là, je faisais en effet quelques articles pour cette revue que j'avais créée d'ailleurs à Avignon et que nous avions le lectorat, disons, Avignon et le Vaucluse nous demandaient ce petit journal.
Une revue littéraire.
Une revue, oui, plutôt littéraire et culturelle, oui.
Oui.
C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai connu Hervé Pijac, hein, qui lui avait une revue aussi associative sur les roues, alors par contre, sur les roues. Et comme ça, nous sommes rencontrés, nous sommes devenus amis.
Et vous aviez écrit des articles déjà sur Marc Bernard.
Alors, oui, sur Marc Bernard, sur Léo Larguier, bien sûr.
Oui.
Sur d'autres écrivains provençaux, un petit peu aussi. Quelques articles, quoi.
Oui. Et Marc Bernard, donc, vous vous êtes dit, ça vaut la peine d'aller plus loin et de mieux le faire connaître au public.
Léo Larguier.
Mais Marc Bernard, déjà, à l'époque.
Marc Bernard, oui, donc, c'est-à-dire que Pierre Achillet donc, m'a proposé de rééditer Marc Bernard. Alors, j'ai apporté des compléments, je fais une ou deux corrections.
Oui.
Et puis, je voudrais aussi ajouter un petit texte qui évoque l'amitié entre Jean Paulhan et Marc Bernard. Il y avait une amitié vraiment très, très profonde entre eux.
Oui.
Donc, je voudrais un petit peu évoquer aussi cette amitié.
Vous avez cette question de l'amitié, des rapports entre les écrivains et leurs contemporains. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Nous le voyons dans les deux livres que vous avez consacrés à Léo Larguier, surtout dans le dernier. Mais peut-être on va procéder par étapes.
Oui.
Parlez-nous d'abord un peu du premier livre sur Léo Larguier, intitulé « La volupté du rêve ».
Oui, donc je me suis intéressé à Léo Larguier. Pourquoi je me suis intéressé à Léo Larguier ? D'abord, j'en entendais parler par ma mère, parce que mon grand-père maternel avait été camarades de classe de Léo Larguier à Alès, donc au début des années 1900, hein, au moment où ils passaient leur bac. Et ensuite, étant à Avignon, pour mon activité professionnelle, hein, j'ai rapidement su que Léo Larguier avait séjourné au Palais du Roure. Il était d'ailleurs cousin avec Jeanne de Flandrésie, qui était la maîtresse des lieux. Et donc, pendant la guerre, il est venu pendant 2 ans héberger au Palais du Roure. Alors évidemment, ça a éveillé un petit peu aussi ma curiosité sur Larguier, disons, pourquoi est-il venu à Avignon, qu'a-t-il fait à Avignon pendant cette période. Voilà, c'est pas comme ça que j'ai été amené, disons, à m'intéresser de plus près, évidemment, à Léo Larguier. Et alors, ce que j'ai conçu, au lieu de faire une biographie classique, je l'ai fait sous cette forme, sous forme d'une lettre. Donc c'est Léo Larguier qui raconte sa vie. une lettre. Bon, il était au palais du Roure, c'est la guerre. Il écrit un petit peu, mais il n'a pas trop d'occupation, moins qu'en Paris en tout cas. Alors donc, il a l'idée d'écrire sa vie pour laisser cette longue lettre qui développe sa vie à sa fille. Et sa fille l'ouvrira au moment de son décès.
Oui.
Donc c'est lui qui raconte sa vie.
C'est une manière originale de
Oui, c'est un procédé. Il y a des personnes qui estiment que non, on ne doit pas rentrer chez un personnage et le faire parler alors que la personne est décédée, bien sûr, et n'est plus là. Mais bon, je pense que ça peut se faire aussi quand même. Et ce qui m'a plu, c'est que je suis vraiment rentré dans le personnage,
oui.
Au point, petit à petit, presque, de vivre ce qui vivait, de ressentir ce oui. qui vivait.
Le palais du Roure, c'est un...
Alors, le palais du Roure, donc, c'est dans Avignon, Avignon de la République, c'est une demeure du 15e siècle, hein. Une demeure du 15e siècle qui est le centre un petit peu de la culture provençale.
Hein. Oui, d'accord.
Provençale et italienne aussi, d'ailleurs. C'est un très bel, un lieu très, vraiment très très beau. Ils ont beaucoup de choses sur la culture provençale, entre autres, il y a énormément de documents, d'archives. Hein. Ils ont aussi donc sur la culture italienne. Bon, c'était les Baroncelli qui étaient oui. propriétaires des lieux. Franco oui. de Baroncelli. Et ensuite, c'est Jeanne de Flandrésy, lorsque la maison a été vendue à un promoteur qui allait démolir carrément les lieux. Pour en faire un bâtiment. Donc ça a été récupéré par Jeanne de Flandrésy,
oui.
qui en a fait un haut lieu de la culture provençale.
Et à l'époque, vous connaissiez Largué, vous en avez entendu parler, comme vous venez oui. de le dire. Vous le lisiez beaucoup
Je commençais un petit peu à le lire, mais c'est ensuite. Mais m'intéressant à lui, bon, j'ai cherché ses livres. J'avais commencé à en lire deux ou trois peut-être, mais ça me plaisait, sa prose me plaisait beaucoup. Hein.
Professionnellement, vous aviez contact avec sa prose avec sa poésie ?
Non. Donc, je suis un lecteur, bien sûr, j'aime le domaine littéraire. Hein. C'est la seule chose qui m'intéresse. Donc, je me suis intéressé à lui en me disant, tiens, peut-être... Largué, quelqu'un en gardois, ça vaut peut-être la peine de
oui.
quelqu'un en plus qui est quand même tombé dans l'oubli
oui.
en partie.
Hein. Il était, oui, c'est un peu étonnant d'ailleurs qu'il était oublié comme ça.
Oui, c'est-à-dire qu'après, c'était un romantique, donc il écrivait de la poésie romantique, classique.
Oui.
Ensuite, il y a eu les nouvelles écoles de poésie avec Apollinaire, bien sûr, Verdi et d'autres. Et sa poésie n'était plus au goût du jour. Quoi.
Oui. Vous avez donc publié ce livre qui a eu du succès, puisqu'il a été épuisé, qui va être réédité, ce premier livre.
Oui, disons, bon, le lectorat s'est trouvé surtout dans le Gard, bien sûr, un peu à Nîmes, et puis oui. à la Grand-Combe, bien sûr. Oui.
Et il faisait partie de l'Académie Goncourt, c'était important ça.
Oui, voilà, l'Académie Goncourt, il a été pressenté pour l'Académie française.
Oui.
Il avait plusieurs amis académiciens français qui le poussaient. Il lui dit tu rentreras à l'Académie française, il n'y a pas de problème. Bon, il a hésité. L'Académie Goncourt, il était très ami avec Roland Dorgelès, qui était président de l'Académie Goncourt. Et Dorgelès, au contraire, essayait de l'attirer
oui.
vers l'Académie Goncourt. Et finalement, bon, il a choisi l'Académie Goncourt. Il a un peu fâché ses amis académiciens français, bien sûr. Mais bon, il se plaisait beaucoup à l'Académie Goncourt. Il n'y est plus, finalement. Ça, il n'a pas regretté, je ne pense pas.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un second livre
C'est-à-dire, je ne pensais pas écrire un second livre sur Léo Largué. J'avais écrit des articles, donc, comme je vous l'ai dit. Je l'ai proposé à un éditeur protestant, d'ailleurs, qui était intéressé. Mais qui tardait, qui me faisait patienter. Alors finalement, Hervé Pijac, donc, qui vient de relancer les éditions de La Voix Domitienne, m'a dit, mais écoute, je vais relancer ma maison d'édition et je vais te l'éditer. Voilà. Donc c'est pour ça, sinon au début, je ne pensais pas faire un deuxième livre sur Léo Largué. Alors là, j'ai utilisé un autre procédé, c'est le procédé qu'utilisait Léo Largué. Bon, Léo Largué est un poète, c'est-à-dire un créateur d'images.
Oui.
Dès qu'il écrit quelque chose, il crée des images, forcément. Alors, lorsqu'il a écrit plusieurs biographies ou essais biographiques, ce n'est pas des biographies exhaustives, hein. C'est des biographies où si, il développe la vie de quelqu'un, mais il en a écrit plusieurs. Et alors, il procède par image, c'est-à-dire il part d'une image forte, comment dire, un moment fort de la personne dont il va écrire la vie, un moment fort, un moment remarquable, ou même un moment de la vie quotidienne, carrément, sans aller vers les hauts faits. Et alors, à partir de cette image, il développe une portion de sa vie, bien sûr, de la vie de la personne, à partir, évidemment, de l'image. Par exemple, pour Victor Hugo, il a écrit un Victor Hugo en 20 images, dont il part, par exemple, de la bataille d'Hernani, pour ensuite exposer plus largement, disons, comment dire, les conceptions littéraires de Victor Hugo. Alors, j'ai utilisé ce procédé. Ça ne m'a pas déplu, en définitive. Donc, j'ai pris des moments forts de la vie de Léo Larguet, et à partir de chaque moment fort, je développe sa vie, mais en rapport avec l'image que je viens de donner, ou l'image, ou la scène, le cliché, mais voilà.
Alors, c'est Alain Arthus, c'est donc un livre de près de 200 pages, plus de autour de 200 pages, oui, qui suit le premier. Est-ce qu'il y est... vous avez expliqué donc les différences. À part, vous avez parlé de ces tableaux. Effectivement, c'est très clair, bien présenté au début. On comprend très bien de quoi il s'agit. Mais par rapport au premier, c'était difficile de faire quelque chose de nouveau, même avec une forme différente.
Oui, bien sûr. Bon, j'ai un peu repris le livre précédent, bien sûr. Bon, différemment, j'ai apporté quelques faits nouveaux, bien sûr, que je n'avais pas pris dans le livre précédent, forcément. Mais bon, le procédé est différent, donc ça fait un livre un peu différent, même si j'ai repris, évidemment, la vie et l'œuvre de Léo Larguet.
En tout cas, c'est tout à fait passionnant. Je redis aussi qu'il y a un sous-titre que je n'ai pas indiqué, Léo Larguet en quelques images, de la Cévenne à Saint-Germain-des-Prés.
Voilà, oui.
Pour bien montrer que c'est là qu'il est mort, Saint-Germain-des-Prés, en 1950, et il est né à côté d'Alès, à la Grand Combe.
À la Grand Combe, oui.
En 1878. Donc,
1878, oui.
On va, avant de continuer cette émission, on va faire une petite pause musicale et nous reprendrons après. Radio Alliance Plus, 103.2 FM. Vous êtes dans l'émission Au fil des pages. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 09 53 49 85 50. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écouter sur la bande FM, vous pouvez nous écouter en DAB+, et vous nous retrouvez nos podcasts sur le site radioallianceplus.fr. Nous sommes toujours avec Alain Artus, qui est écrivain et qui a beaucoup travaillé, notamment sur Léo Larguier. Alors, Alain Artus, après, vous avez donc publié ce second livre, Léo Larguier, en quelques images, mais dites-nous en gros d'abord qui était Léo Larguier.
Alors, Léo Larguier donc, est né à la Grand-Combe de parents Cévenols. Parents Cévenols, sa mère et son père, donc à peu près dans la région à l'ouest, nord-ouest de la Grand-Combe, enfin, oui, à l'ouest de la Grand-Combe, au sud du collet de Dèze, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, il y a une origine Cévenole, dont les parents étaient venus s'établir à la Grand-Combe. Ils étaient commerçants, petits commerçants. Donc, il est très attaché. Il avait, entre autres, une grand-mère aussi qui l'aimait beaucoup, donc qui lui parlait de la Cévenne, qui lui a appris à lire aussi. Donc, très attaché à cette grand-mère, à ses parents aussi. Hein, c'est une famille qui est très unie. Protestante, non. Et il a fait ses études secondaires à la Grand-Combe. Il a fini par passer son bac. Il a continué après au lycée d'Alès, les grandes classes au niveau du lycée, après la Grand-Combe, donc à Alès. Il a passé son bac. Et ayant son bac, dont ses parents souhaitaient qu'il fasse des études supérieures. Son frère a fait des études de pharmacien. Donc c'était quand même des petits commerçants qui étaient un petit peu aisés. Et lui, ils aimeraient qu'il fasse Sciences Po, parce qu'il est plutôt porté sur les lettres, hein, plus que sur les sciences. Sciences Po, il est apparemment d'accord, mais il y a quelque chose, évidemment, qui lui plaît beaucoup, c'est la littérature et surtout la poésie. Donc, il a commencé à écrire des poèmes, de la poésie. Il en a envoyé à Paris, d'ailleurs, à des revues. Il y a une revue qui avait édité un de ses poèmes. Donc, il part pour faire des études de Sciences Po. Mais en réalité, il part pour devenir poète. Hein, c'est ce qu'il a dans la tête. Alors je trouve que c'est admirable, cette image. C'est une image d'ailleurs, peut-être de laquelle on peut partir, de ce jeune grand combien qui part à Paris. Ses parents pensent qu'il va faire des études supérieures, c'est celles qu'ils veulent, et qui lui se dit non, moi je vais devenir poète et je vais essayer de devenir un écrivain, un poète connu et reconnu à Paris. Hein, à nous deux Paris, quoi, en quelque sorte. Alors, je trouve ça assez remarquable, ce jeune qui part avec cette volonté, et qui va y arriver en définitive. Alors il part, évidemment, il sait que la Cévenne restera toujours dans son cœur, mais la Cévenne maintenant s'éloigne. Non, ça sera Paris, ça ne sera plus la Cévenne. Tout en restant très attaché, évidemment, à ses origines. Or là, immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Ses parents lui donnent un peu d'argent quand même pour qu'il puisse louer une chambre, certes modeste, mais pour qu'il puisse vivre, se nourrir, s'habiller. Il va aussitôt rencontrer d'abord des poètes de sa génération, entre autres les poètes toulousains, dont il en connaît certains. Ensuite, arrivé à Paris, il était allé voir André Gide, parce qu'il avait écrit à André Gide de la Grand-Combe, et André Gide lui avait répondu. Et André Gide lui a dit, si tu veux, tu vas rentrer à Sciences Po, je peux très bien t'y conduire, je connais des professeurs là-bas, je te montrerai un petit peu, si tu veux, je te fais pénétrer à Sciences Po, je connais des personnes. Alors c'est André Gide qui l'a amené à Sciences Po. Mais Sciences Po, il a suivi deux ou trois cours, et puis après, il a arrêté et il s'est mis à écrire de la poésie. Donc il est allé rencontrer les grands poètes, ça il le fallait bien sûr, dont Heredia, Marie-Josée de Heredia, qu'il a reçu, qui a lu ses poèmes, qui a trouvé que la poésie de Léo Larguier quand même avait un certain talent, lui a appris à se perfectionner, bien sûr. Bon, puis d'autres poètes, François Copé, Paul Fort. Après, il y a Jean Moréas aussi qu'il va rencontrer, dont il va devenir l'ami. Donc, assez rapidement, il rencontre des grands poètes et avec ce qu'il produit, il est reconnu quand même comme talentueux.
Oui, voilà. Hein?
Il écrit aussi Il faut vivre. Ses parents, bien sûr, le nourrissent un petit peu, mais sans plus. Donc, il va écrire aussi, il va se faire reconnaître dans des journaux aussi, par des directeurs de journaux. Bon, il va dans les cafés. Il y a une vie de café, forcément. C'est là qu'on rencontre les directeurs de journaux, les directeurs de théâtre, les journalistes. les hommes de radio. Donc, il va dans les cafés tous les jours, de, vers 5-6 heures, il va passer une paire d'heures au café. Et là aussi, il rencontre des personnes qui peuvent l'aider.
Et votre livre nous fait entrer justement dans ce monde des cafés, de tous ces grands cafés littéraires du centre de Paris, du cœur de Paris, du 5e et 6e arrondissement.
Oui.
On retrouve là toutes ces figures que vous venez d'évoquer. Et à partir de là, il se fait de plus en plus connaître.
Voilà, ça fait de plus en plus connaître. Il est reconnu, en effet. Il va écrire du théâtre, parce qu'évidemment, à ce moment-là, écrire une pièce de théâtre, ça permet de... Le théâtre marche très bien. Il y a de très nombreux théâtres à Paris. Et pour se faire connaître, être joué au théâtre, ben, c'est un atout. Disons. Ouais. Ça permet de se faire connaître du grand public. Et... Alors finalement, quelqu'un le présente à André Antoine. Il dit, bon, mais je vais vous écrire une pièce. Il écrit deux pièces. Et cette pièce est aussitôt acceptée par Antoine et va être jouée à l'Odéon.
Oui. Et alors, ces rencontres, parce qu'on va revenir sur le livre, les lecteurs auront certainement beaucoup de plaisir à découvrir avec ces tableaux, puisque donc, l'originalité de ce livre, c'est, vous le disiez, Léo Larguet en quelques images des tableaux.
Oui.
Et là, vous présentez, vous l'avez dit en introduction, quelques images, parce qu'il a traversé... une partie importante de ce siècle. Il a traversé deux guerres mondiales.
Oui, oui.
Et ça a été important dans sa vie, dans son œuvre.
Oui, oui. Oui.
Et il a été soldat dans les tranchées, il a été blessé, et il a écrit à ce moment-là. Et votre livre rend très bien compte de ce talent qu'il avait et de ses pensées, de sa souffrance aussi, parce qu'il a souffert justement de voir toutes ces figures. Et les contacts qu'il a eus, vous avez évoqué les contacts avec les grands poètes, mais pas seulement. Il a rencontré aussi, comment s'appelle-t-il, tout à coup, un politique, Jean Jaurès.
Jean Jaurès, oui.
Bien sûr, il a pu parler avec Jean Jaurès.
Et,
vous avez indiqué au début, de manière un peu anecdotique, qu'il aimait bien les objets.
Oui.
C'est quelque chose qui revient souvent dans votre livre.
Oui, disons, c'est un collectionneur, Léo Larguet. Bon, on collectionne le livre déjà. Bon, il a une énorme bibliothèque, bien sûr. Mais il aime évidemment les œuvres d'art. Et c'est vrai qu'avant la guerre de 14, à Paris, en allant chez les brocanteurs, on pouvait trouver des objets d'art quand même d'une petite valeur, mais quand même d'un peu de valeur, à des tout petits prix.
Oui.
Donc il en a profité. Il a profité pour acheter des petites œuvres d'art, des œuvres de peintres connus, mais bon, des œuvres tout à fait mineures, bien sûr, mais qui avaient quand même une petite valeur et qu'on a pu acquérir à de petits prix.
Mmh.
Pareil pour les livres. On pouvait trouver de belles éditions aussi à de petits prix dans ce moment-là, bien sûr. Donc il en a profité.
Alain Artus, vous avez donc dans ce livre parlé des diverses rencontres de Léo Larguet avec ses contemporains. On a évoqué Jean Jaurès, on a évoqué des auteurs, des peintres. Et alors vous vouliez dire quelques mots à propos de sa rencontre avec Cézanne.
Voilà. Donc Léo Larguet est allé faire son service militaire en 1900 à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, bon, il connaît un poète qui s'appelle Joachim Gasquet, qui est un poète lyrique aixois, mais qui a du talent et qui est reconnu. Dans ce poète, Joachim Gasquet le lui présente Cézanne. Et aussitôt, eh bien, les deux hommes, il y a quelque chose qui se passe entre ces deux hommes. Et aussitôt, Cézanne dit à Léo Larguet, ben, dimanche prochain, venez déjeuner chez moi. Larguet, bon, ben, va aller chez Cézanne, c'est quand même... Il y va, en effet, il est très bien reçu. Cézanne aime la littérature aussi. Et une amitié très profonde dont se noue entre ces deux hommes. Et pratiquement tous les dimanches, Léo Larguet ira déjeuner chez Cézanne. Cézanne lui permettra de le regarder en train de peindre, alors qu'il n'aime pas trop ça, Cézanne n'aime pas qu'on le regarde quand il peint. Mais de Larguet, finalement, ils sont tellement amis qu'il admet tout de Larguet.
Ah oui.
Et il y a une chose aussi qui est assez surprenante, c'est que Cézanne n'aimait pas qu'on le touche. Ça, même son médecin avait du mal à l'ausculter. Il paraît que Cézanne lui dit, moi je ne m'en suis pas aperçu. Je l'ai aidé à s'habiller, je le touchais, donc il ne m'a jamais rien dit. Donc il semblait que Cézanne, il y avait une telle amitié qu'il admettait tout de Léo Larguet et qu'il admirait Léo Larguet.
Et il a écrit sur Cézanne aussi.
Alors il a écrit, oui, ça a été le premier à écrire sur Cézanne. Il a écrit, oui, 4 livres sur Cézanne, en effet.
Mais écoutez, merci beaucoup, Alain Artus. On aimerait rester plus longtemps à parler avec vous de ce passionnant Léo Larguet qu'on découvre grâce à vos 2 livres et grâce à ce dernier livre. C'est Léo Larguet en quelques images qui nous font redécouvrir tous ces liens d'amitié, de culture entre Léo Larguet et ses contemporains.
Bien, oui.
Merci d'être venu et bienvenue pour d'autres occasions.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Je remercie donc Radio Alliance Plus de m'avoir invité. Et j'ai eu du plaisir, disons, à parler avec vous un petit peu, à évoquer ce poète qui m'est très cher.
Oui. Merci bien.